Alors, allez-y donc avec les casse-croûtes, puisqu'il y a plusieurs personnes là, qui vont prendre la route des vacances.
Absolument, absolument, absolument. Et dès qu'on est à l'extérieur de Montréal, il y a des casse-croûtes à Montréal.
Il y en a. Oui. En fin de semaine, ou en tout cas, tout récemment, on en parlait des casse-croûtes, dont celui qui existe depuis 1929 et qui s'appelle Ma Tante et qui est sur Fleury Est dans Montréal-Nord. Mm-hmm. Ouais.
Alors, c'est ça, oui, c'est dans le Journal de Québec de dimanche, un texte des Bibliothèques et Archives nationales du Québec. Marqueur du paysage québécois, les casse-croûtes font incontestablement partie de notre culture. Après tout, on leur doit notre mets national, qui est la... Poutine!
Oui, la poutine, oui. J'avais fermé mon micro.
On les fréquente lors des chaudes soirées d'été et de nos escapades en voiture, mais savons-nous à quand remonte la relation que nous entretenons avec eux? Voici la brève histoire des casse-croûtes québécois. Au 19e siècle, des établissements offrant des repas rapides sont apparus graduellement dans les villes. À Québec, on trouvait de petites cabanes sur les places du marché. L'une d'elles, à proximité du marché Champlain, se trouvait au bord des quais, suspendue au-dessus de l'eau. Et selon Jean-Marie Lebel, on y servait des repas à la minute et de la petite bière à un sou le verre.
Pas cher. Ça doit être bien aussi comme endroit, hein? Une petite cabane au-dessus de l'eau.
Oui. Un journaliste rapporte que la provenance des mets y était parfois douteuse. Alors, moi, c'est ça. Lors de l'exposition provinciale de 1894, une cantine temporaire avait été installée devant le manège militaire pour servir les visiteurs. Le restaurant J.T. Levallée vendait des repas à toute heure en plus de cigares. Et ce type d'installation lors des expositions, foires et fêtes foraines deviendra un incontournable. Au tournant du 20e siècle, on trouve ce genre d'établissement dans les quartiers ouvriers. On les nomme « Quick Lunch », « Light Lunch », Pork and beans ou débit de fèves au lard. On y vend des mets canadiens inspirés de la cuisine de chantier, lard, pain, fèves au lard, soupe au pois, pâté chinois, etc. Ce sont des commerces d'appoint qui servent la clientèle du quartier. Ils font l'objet de surveillance policière puisqu'on y vend également de l'alcool. De roulotte à camion. L'industrialisation et le travail en usine entraînent de nouveaux besoins en ce qui concerne l'alimentation dans la ville. Si les chantiers et camps de bûcherons possèdent des cantines, les usines n'offrent pas ce service à leurs employés. C'est ainsi qu'apparaissent les premières cantines mobiles, principalement des roulottes tirées par des chevaux. Ces ancêtres des camions-restaurants s'installent à la sortie des usines et offrent des repas chauds, peu coûteux et servis rapidement. Dans les années 1940, près de 200 cantines mobiles sont encore en activité à Montréal. Un quart d'entre elles sont encore tirées par des chevaux.
Wow!
Puisque les employés doivent préparer la nourriture et s'occuper des animaux, il y a des problèmes d'hygiène et de salubrité. C'est pourquoi en 1947, la vente de nourriture et de boissons sur la voie publique est abolie à Montréal. Les autres villes de la province suivront cet exemple. Et ce règlement sera maintenu jusqu'au retour de la cuisine de rue en 2015 à Montréal et en 2017 à Québec. Les établissements installés de façon permanente sur des terrains privés vont en profiter pour moderniser leurs installations. Ils auront graduellement accès aux commodités de base, l'eau courante, électricité, toilette. Certains vont s'intégrer à d'autres commerces, comme des épiceries et des stations-service. Cependant, plusieurs d'entre eux resteront très modestes. Ces commerces deviennent des lieux de rencontre et se taillent leur place dans la culture populaire du Québec. À partir des années 1920, l'influence américaine se fait sentir. Nos voisins du Sud ont été les premiers touristes à parcourir le Québec, évidemment à cause de la proximité. Nos cantines vont embrasser cette influence et se transformer en snack-bar à l'américaine, décoré de publicités de Coca-Cola, évidemment. Les menus vont également s'américaniser en offrant des hot-dogs, hamburgers, milkshakes et frites.
Bye-bye, fèves au lard et pâté chinois.
Cette américanisation n'est pas toujours vue d'un bon œil. Alors, le ministère de la Voirie et plus tard, le ministère de l'Agriculture vont faire pression pour promouvoir des mets régionaux. Avec le soutien de la presse et du clergé catholique, ils vont également mener un combat contre l'anglicisation des panneaux d'affichage. Ah ben, Ces mesures ont pour but d'encourager les commerces à afficher fièrement l'identité catholique et française du Québec. Et à partir de 1949, un nouveau service chargé de réglementation des affiches le long des routes est créé au sein du ministère de la Voirie.
Alors, Serge, on va continuer avec vous. Servir la société de loisirs, ça fait partie donc de l'histoire de ces casse-croûtes.
Oui. Mmh.
Et c'est bien photographié, bien illustré.
Oui, ah, oui, ah, c'était des belles photos. Surtout la première photo, là, c'est un mini... Écoute, c'est
on
mini
continue
stade-bas.
Après la pause.
Oui, OK.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Et on poursuit avec Serge Bradet, la brève histoire des casse-croûtes québécois illustrée et c'est raconté dans le Journal de Québec. Ça a été publié le 22 juin dernier.
Alors, l'essor de la voiture vient transformer le paysage québécois. Dans l'après-guerre, la province souhaite relancer l'industrie du tourisme. Le Québec crée de nouvelles routes, améliore celles déjà existantes, intervient dans la protection de la faune et crée des parcs, de nouveaux parcs nationaux. En 1944, le gouvernement fédéral instaure l'Office canadien du tourisme. Deux ans plus tard, le Québec se dote d'un office provincial de la publicité. Cette période coïncide avec la démocratisation du tourisme et l'accès de la classe moyenne à la société des loisirs. Les familles ont plus de temps et d'argent pour voyager en voiture. Le transport de marchandises par camion crée également de nouveaux travailleurs nomades qui ont besoin de manger en route. Les motels et les casse-croûtes viennent répondre à ce besoin en offrant des services rapides et peu coûteux. D'ailleurs, cette combinaison sera très populaire. Le nombre de cantines de bord de route explose et la clientèle cible change. Si les premières cantines servaient des repas aux travailleurs, celles-ci serviront la société de loisirs. L'ère des cantines est liée au mode de vie centré sur la voiture. Et le Club automobile de Québec, CAQ, et le ministère de la Voirie encouragent également cette relation au moyen de publication et de publicité. Et en 1946, le livre « Adventures in Good Eating » propose des adresses où manger le long des routes nord-américaines. Parmi elles, on retrouve quelques cantines gaspésiennes servant du saumon bouilli et des langues de morue. C'était notre guide Michelin à nous.
Du saumon bouilli, je ne suis pas sûr.
Moi non plus. La période qui s'étale de 1950 à 1980 marque l'âge d'or des casse-croûtes. Ils vivent une réelle montée en popularité et font désormais partie du paysage québécois. Offrant toujours des repas à faible coût, ils deviennent des lieux de rencontres privilégiés pour les jeunes en quête de liberté et pour les sorties en famille. De la même manière, les crèmeries se multiplient. Sur les quais de Québec, à l'instar de celui du 19e siècle, le restaurant Riviera fait fureur. Construit sur pilotis, à proximité du traversier, il échappait ainsi aux taxes municipales, selon la légende. Ce fut le premier restaurant de la ville à ouvrir le 24 heures sur 24, et le 12 janvier 67, il est victime des flammes, malheureusement. Ouais. Dans les années 1960, un nouveau mets fait son apparition sur le menu.
La poutine.
Cette grande vedette alimentaire vient en quelque sorte cristalliser le lien entre l'identité québécoise et les casse-croûtes.
C'est pas steak de lait d'Inde, patate, c'est patate, fromage, sauce. Malgré qu'il y a des poutines maintenant, on trouve quasiment du roast beef dedans.
Oh, oui, il y en a au foie gras.
Oui.
Pour la ville de Québec, c'est Ashton qui en sera le porte-étendard. À partir de 1969, le restaurant n'était alors qu'une petite roulotte sur le boulevard Hamel. Certains établissements vont choisir d'ouvrir uniquement pour la période estivale, un moment où l'achalandage est plus important. Cela permet également aux plus faibles un plus faible investissement pour financer les installations. Ainsi, des roulettes sont converties
des roulettes?
Des roulottes.
Des roulottes sur roulettes.
Des roulottes, oui. Des roulottes sont converties en casse-croûtes. On les trouve généralement stratégiquement placées à l'entrée d'un village ou sur le bord d'une route touristique. Certaines d'entre elles sont devenues célèbres dans la région. Différents magasins, comme la compagnie Paquet et Zellers, offrent un comptoir lunch. Les centres commerciaux aménagent également une aire de repas pour permettre à la clientèle de magasiner plus longtemps. Moi, je suis longtemps allé manger avec ma mère quand on magasinait chez Woolworth sur Sainte-Catherine. Je me rappelle, ça m'a tellement chagriné quand ils ont fermé.
Mais nous, ma mère nous amenait, mes sœurs et moi, au Fairview. Il y avait un Woolworth au Fairview.
Oui.
Et puis un grand comptoir où on pouvait manger justement des hot dogs, des frites sur des tabourets là, qui tournaient. On n'arrêtait pas de jouer avec ça.
Dans les années 1970, les casse-croûtes québécois font face à de nouveaux compétiteurs. L'apparition des chaînes de restauration rapide américaines entraîne une perte de popularité pour les commerces de chez nous. Les entreprises comme McDonald's, qui ouvre son premier restaurant au Québec en 1972, offrent des produits à des prix dérisoires. Et aujourd'hui, l'industrie du casse-croûte se porte assez bien quand même. Ces établissements font toujours partie de la tradition de bien des familles.
Mais tout le monde aime ça.
Oui, oui. La clientèle...
La poutine, des hot dogs, des hamburgers. Ouais, ouais, ouais.
La clientèle y est fidèle, ce qui donne lieu à de nombreux débats sur le meilleur casse-croûte du Québec. D'autres entreprises marient cette gastronomie aux produits du terroir ou choisissent de se spécialiser dans un mets en particulier. Qu'ils soient saisonniers ou non, ces restaurants occupent une place importante dans le paysage du Québec. C'est un texte de Camille G. Jobin, qui est technicienne à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
Et on peut aller à BANQ, passer des jours, regarder, s'informer, fouiller dans les archives. C'est absolument passionnant sur toutes sortes de sujets.
Oui, oui.